France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
De la Normandie au Vietnam, de combat à frères d'armes, du souffle de la guerre aux têtes brûlées, d'Holocauste à l'enfer du devoir avec Papa Schulz et Papy Boeington, comment les États-Unis mettent-ils leur guerre en série?
Et tout de suite, ils ont tiré de tous les côtés.
Le cours de l'histoire.
On n'a rien trouvé?
Si, des armes de tous les modèles.
Si j'ai bien entendu, vous dites au responsable de cette mission que vous savez ce dont il a besoin ou non. Je le mettrai dans mon rapport et si la mission échoue, vous irez vous expliquer en haut lieu, colonel.
Toute cette histoire me déplaît. Vous n'avez reçu aucun ordre de la compagnie. Pourquoi prenez-vous cette bande?
Parce que je leur ai parlé de la surveillance, mais ils ne m'ont pas cru. Et moi, je ne veux pas avoir d'accident.
Quelle générosité, colonel. Quelle abnégation pour un officier.
Schulz! Une démonstration de force pourrait les dissuader.
Marjolaine Boutet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez reconnu pas mal de séries ici, hein, j'imagine.
Hein. Oh ben, surtout Papa Schulz.
Ben oui, ça se terminait par Papa Schulz, il y avait des têtes brûlées. Vous êtes professeur en études anglophones à l'université Sorbonne à Paris-Nord. Vous êtes l'autrice notamment avec Pierre Cerisier des 1000 séries à voir sans modération, parce que la série, c'est un objet historique et un objet qui transmet l'histoire. C'est un objet pluriel, difficile à saisir d'ailleurs aujourd'hui dans le cours de l'histoire et toute la semaine avec cette série consacrée aux séries télévisées. Nous approchons cet objet, mais il est complexe et pluriel. Hein.
Il est extrêmement complexe parce que d'abord, moi, ce qui m'intéresse dans les séries télévisées, c'est que ce sont des œuvres collectives qui sont reçues collectivement. Donc, c'est vraiment de l'histoire culturelle, de l'histoire sociale. Et puis, mon ouvrage d'HDR qui s'appelle « Faire écran, les réécritures de la Seconde Guerre mondiale au temps de la guerre froide », j'ai fait aussi de la réception transnationale des séries. C'est-à-dire que Papa Schulz est une série des années 60 américaine, très influencée par la guerre du Vietnam, on y reviendra. Mais nous, en France, on l'a vu, surtout dans les années 90, donc avec un contexte de réception radicalement différent, des voix évidemment doublées et un imaginaire différent. Et puis, en plus de ça, quand on s'intéresse aux séries historiques, il faut bien sûr connaître la réalité historique, mais aussi la réalité des connaissances historiographiques de l'époque. Et puis, toutes ces couches de représentation entre l'événement passé et le moment où on raconte la série. Donc, enfin, oui, c'est un travail de titan, sans parler du temps des séries elles-mêmes.
Ah bah oui, parce qu'il faut les regarder, c'est un jeu sur la temporalité, faire écran. Les réécritures de la Seconde Guerre mondiale dans les séries télévisées au temps de la guerre froide, c'est votre ouvrage, vous l'avez dit, Marjolaine Boutet, HDR, c'est l'habilitation à diriger des recherches. Et cet ouvrage est publié aux presses universitaires du Septentrion. À partir de quel moment voit-on les États-Unis mettre leur guerre en série? Au sens où nous avons l'objet ici, la série, l'idée de reproduire en épisode une narration, que ce se suive ou que ce soit des épisodes indépendants. Et puis après, le thème de la guerre. C'est quelque chose qui apparaît très tôt, c'est un super sujet.
C'est quelque chose qui apparaît en 1962, ce qui n'est pas si tôt que ça dans l'histoire des séries, puisque l'histoire des séries américaines commence à la fin des années 40. Ces séries, dès la fin des années 40, n'ont pas été enregistrées, donc elles ont disparu. Là aussi, on travaille souvent avec les séries télé, avec des archives mouvantes qui disparaissent, qui ne sont pas nécessairement conservées, qui sont soumises à droit d'auteur, donc tout ça aussi complique le travail de l'historien. Mais pour revenir donc à Combat, première série de guerre, 1962. Donc c'est tout à fait contemporain du jour le plus long, avec un coup par minute 23 fois inférieur au jour le plus long. Et pourtant, la première saison, elle est réalisée majoritairement par Robert Altman. Excusez-moi du peu.
Ah oui, bien.
Et c'est vraiment une série, elle est entièrement disponible sur YouTube gratuitement. Et c'est au niveau de la réalisation, c'est extrêmement intéressant parce que comme il y a peu de moyens, comme il n'y a pas de possibilité d'enregistrer, ils n'ont pas de micro-cravate, les acteurs. Donc, quand on fait des scènes de combat, ils sont très très loin, il y a très peu d'argent pour la post-prod. Du coup, on met beaucoup de musique. Et du coup, ça fait une série très silencieuse, très anti-militariste, ce qui est surprenant pour les États-Unis des années 60, et qui vraiment annonce, encore une fois, le pacifisme de la guerre du Vietnam, parce que Robert Altman a fait MASH en 1970, Palme d'Or à Cannes. Mais il y a vraiment c'est la guerre dure, c'est la guerre absurde, c'est la guerre qui sert à rien, c'est des corps harassés, des corps souffrants. Enfin, on est très très loin de la représentation de la Seconde Guerre mondiale au cinéma à la même époque. Et c'est très intéressant pour ça.
Ah oui, parce que Le jour le plus long, c'est vrai que c'est ce film qui fait référence, qui raconte le débarquement en Normandie. Un film qui, lui aussi, est long. Il dure 3 heures. Mais la série Combat, qui sort en 1962, elle aussi est très longue au sens où nous avons 152 épisodes de 52 minutes.
Ouais,
c'est énorme.
C'est énorme. C'est gigantesque. Et en plus, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas d'évolution, parce que ça raconte donc la libération de la France, mais les Allemands sont toujours là, ça n'évolue pas, voilà. Et les Français sont très, très stéréotypés, le Français est généralement petit brun, moustachu, un peu bedonnant, rarement courageux, parce que c'est vraiment aussi, c'est une série de guerre froide, donc la libération de la France, c'est les Américains qui l'ont fait. Bon, ce qui, évidemment, ne va pas plaire du tout aux Britanniques, vous en avez parlé hier, mais c'est vraiment quelque chose de très américain, mais de très antimilitariste. Et ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est la représentation, bien sûr, de l'ennemi allemand. Alors, il y a quelques très méchants SS, mais on ne les voit pas beaucoup. Et surtout, c'est l'allemand de la Wehrmacht, l'officier valeureux. Et ce qu'on met en avant, c'est la supériorité morale des Américains. On est vraiment dans une lutte pour la démocratie et pour libérer les Allemands d'une idéologie nazie, évidemment, qui leur fait du mal. Mais fondamentalement, si on leur parle suffisamment longtemps, les Allemands vont se rendre aux idéaux de la démocratie et la liberté.
Dans cette série Combat en 1962, série réalisée par Robert Altman et Robert Pierroch, nous avons ici la vision par les États-Unis, sachant, et vous l'avez évoqué, que les séries véhiculent les visions des nations souvent qui les produisent, avec le portrait de la nation anglaise, hein, Downton Abbey, Peaky Blinders ou The Crown, une émission à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Donc dans la série Combat, on oublie les Britanniques, on oublie évidemment les communistes et donc l'URSS, et c'est un regard très particulier où les États-Unis viennent libérer la France, mais comme vous l'avez dit, 1962, c'est la guerre froide et très très froide, très chaude.
Ah ben oui, puisque on est au moment de la crise de Cuba, on est au moment de la peur nucléaire, et puis la série donc se prolonge jusqu'en 1967, donc déjà la guerre du Vietnam a commencé. Il y a un petit peu des Britanniques dans Combat, mais là encore, c'est les Britanniques vus par les Américains, donc ils sont là aussi un peu lâches, un peu classe sociale supérieure. Voilà, les Américains, eux, sont les vrais hommes du peuple. Et c'est vraiment la greatest generation.
Ouais. Et puis dans cette série Combat, vous nous l'avez dit, nous avons des Français qui sont petits brins bedonnants. Quant aux Françaises, c'est Micheline Prel.
You must leave immediately. They have been trying to reach you all day. You must go to the canal, at Rue Livoire, near Cordon. But it's too late, they've all left. There will be a barge at the canal. For garbage, you are to board it. One of the others will have your papers. They will leave in less than an hour. Now hurry, please, but be quiet. He's still here. Take the metro on the corner, direction Clichy. Get off at Rue Livoire. Walk left 2 streets, the canal near Cordon. Will you remember that?
Metro at the corner, then direction Clichy. Get off a Rue Livoire, walk 2 streets, left to the canal of Cordon.
Good. Now, you'll need this. Walk quickly.
No! Stay.
Un extrait de la série Combat, but Micheline Prel speak English like me.
Mais oui, parce que Micheline Prel a été la femme de Bill Marshall et a fait une petite carrière à Hollywood au début des années 50. Je trouve qu'aussi dans cet extrait, on entend très bien l'importance de la musique. Parce que là encore, dans les années 60, les écrans de télévision ne sont pas forcément très grands, l'image n'est pas forcément très nette, alors que c'est très très beau noir et blanc. Et donc, la musique permet vraiment, c'est ce langage hollywoodien, de faire monter la tension. On entend qu'il va se passer quelque chose. Et au niveau du scénario, Donc Micheline Prenlat, elle interprète la maîtresse d'un officier allemand. Et par un concours de circonstances, elle est obligée de cacher le héros, donc le sergent Saunders, voilà. Et donc, on ne sait jamais qui elle va aider, qui elle va choisir entre cet officier dont elle est réellement amoureuse et qui est au fond assez bien élevé et très, très correct avec elle, et ce soldat américain beaucoup plus bourru qui débarque dans sa vie. Voilà. Et vraiment, c'est un scénario d'une complexité tout à fait remarquable pour l'époque.
Avec ici ce contexte de la guerre froide, Marjolaine Boutet, vous nous l'avez rappelé, et puis vous avez insisté en début d'émission sur la connaissance historique de l'événement qui est traité. Nous sommes dans les années 1960, connaissance historique c'est une chose et centre d'intérêt c'en est une autre, mais souvent ça se rejoint. C'est-à-dire que dans ces années-là, la Shoah n'est pas encore au cœur des préoccupations au moment d'étudier la Seconde Guerre mondiale, ce qui nous étonne d'ailleurs aujourd'hui.
Alors c'est Ophir Lévy qui parle d'empreintes fossiles, qui parle d'images clandestines, et on retrouve ça. Il y a un épisode Combat, justement, qui s'appelle Gideon's Army, donc l'armée de Gédéon, qui est une référence à l'Ancien Testament. Et donc pour ceux qui veulent bien le voir, il y a des références à la Shoah. C'est la libération d'un camp de concentration avec des prisonniers en pyjama rayé qui parlent une langue qui ressemble au polonais. À un moment, il y en a un qui meurt, il y a une prière qui pourrait très bien être le Kaddish. Donc, ce n'est pas dit, le mot juif n'est jamais prononcé, mais malgré tout, pour ceux qui veulent le voir, c'est là. Et c'est les travaux aussi de François Azouvi et donc sur le cinéma d'Ophir Lévy. La Shoah n'a jamais été oubliée, elle n'était pas dite jusqu'à Holocauste, il n'y aura même pas forcément de mots spécifiques pour la désigner, mais elle était là, les témoignages étaient là, et encore une fois, pour ceux qui voulaient bien le voir, c'était tout à fait présent.
Puis il y a ce phénomène de génération, nous sommes en 1962, c'est-à-dire que les téléspectateurs, les téléspectatrices, pour une grande partie, oui, ont connu ces événements.
Robert Altman est un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, Robert Piroche, le créateur, enfin celui qui a eu l'idée originale également. Il y a beaucoup de juifs qui ont participé à cette série et bien d'autres parce que Hollywood a été un lieu d'accueil des réfugiés d'Europe et en particulier juifs dans les années 20 et 30. C'est les travaux de Claire Desmoulins notamment sur cette question. Vic Morrow, donc lui-même qui incarne l'Américain, il ressemble à Matt Damon, il est blond, il est fort, etc. Lui-même est juif. Enfin, donc il y a évidemment cette présence de la guerre et ce souvenir de la guerre est là. Tous les acteurs ont suivi une formation par l'armée américaine elle-même pour qui porte les armes de façon réaliste. Parce que pour le public de 1962, encore une fois, vu le nombre d'anciens combattants de la guerre du Vietnam devant leurs écrans, devant leurs écrans, il fallait absolument que ce soit crédible. Même si, bien sûr, la France a la végétation de la Californie. Voilà, et que les décors sont des décors de western, c'est assez frappant, mais voilà.
C'est pas la vérité historique qui est recherchée ici, il faut le rappeler.
Bien sûr.
Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas de la reconstitution, ça reste une création, une œuvre, une série. Et pour illustrer, Marjolaine Boutet, vos propos, sachant que ces séries, nous les avons vues sans en connaître les coulisses, en fait, et la trame historique, moi, je promets de l'étonnement quand vous allez nous décrypter cette série qui a été tellement diffusé, Papa Schulz.
Demain, je vais travailler un peu le colonel au corps pour l'amener à relâcher la surveillance.
Tu crois que tu vas y arriver?
Bien sûr que je vais y arriver. Je vais me transformer en mouchard et je vais vous dénoncer, les petits gars. Autant que je sache, certains vont se sacrifier en faisant semblant de passer par les barbelés, là.
Mais passer par les barbelés, comment ça?
À l'aide d'échelles, avec des grappins.
Ah.
Et une fois à l'extérieur, ils vont attirer les patrouilles dans plusieurs directions à la fois, hors de vue des miradors, en allant droit vers la forêt.
Ah ah! Ensuite va sortir le gros de la troupe.
Voilà, ils pensent utiliser votre voiture. Ils vont la mettre en route, c'est facile, et puis ensuite, ils vont la lancer contre la porte, et badaboum, ils sortent. Et voilà.
Dis donc, c'est un plan très intelligent, ça. Schultz, n'avez-vous rien entendu au sujet de cette évasion?
Monsieur, rien entendu du tout, rien du tout.
Je n'ai rien entendu du tout, je n'ai rien entendu du tout.
Ah ben, vous non plus, hein, colonel.
Ils ont fait ça discrètement.
Mais vous, vous le savez.
Mais parce que le comité d'évasion vient de me soumettre les projets pour autorisation.
À la suite de quoi vous venez ici et vous me racontez tout ça? C'est bizarre, non? Pourquoi les trahir?
Parce que je leur ai parlé de la surveillance, mais ils ne m'ont pas cru. Et moi, je ne veux pas avoir d'accident.
Quelle générosité, colonel! Quelle abnégation pour un officier!
Schultz! Une démonstration de force pourrait les dissuader.
Hogan, je suis très très impressionné par votre théorie. Je pense que vous avez raison.
Merci, colonel.
Je dois bien avouer que je le serais encore bien plus si je ne croyais pas que ce ne sont que des histoires.
La série Papa Schultz, nous sommes dans les années 1960, 1965, 1971. Marjolaine Boutet, vous pouvez nous rappeler un peu le principe de cette série?
Oui, alors comme vous l'avez entendu avec les rires enregistrés, c'est une sitcom. Donc il y a 168 épisodes. Ça n'avance jamais dans le temps. C'est-à-dire qu'on est toujours censé être en Allemagne en 1942, même si parfois quand même il y a des références au débarquement. Et on est dans un no-flag, donc un camp de prisonniers, officiers, de prisonniers de guerre, des officiers. Et vous avez une troupe, c'est un peu la grande évasion en série. Donc, cette troupe de prisonniers volontaires, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la série, c'est que ce sont des prisonniers de guerre, mais qui vont s'échapper à chaque fois du camp. Et à chaque fois, le colonel Klink, qui est leur geôlier, va dire « Personne ne s'est jamais échappé de mon camp ». Donc, on est vraiment dans de la série classique, c'est-à-dire où les personnages n'ont aucune mémoire de ce qui s'est passé avant, de ce qui va se passer après. Ce qui compte, c'est de se moquer des Allemands et, évidemment, de mettre en scène l'amitié du monde libre. C'est-à-dire que dans donc, ce petit groupe de prisonniers volontaires, vous avez... Évidemment, le colonel, capitaine Hogan, qui est le chef de tous et qui est cet héros américain. Il est joué par Bob Crane. Il a cette beauté hollywoodienne classique.
Il est colonel, c'est bon.
Il est colonel, merci.
Il y a Papa Schultz.
Il y a Papa Schultz, mais je parle d'abord des prisonniers parce qu'il y a un américain.
Un français. Le caporal Louis Lebeau.
Le caporal Louis Lebeau, qui est évidemment expert en couture et en cuisine, comme
français.
Tous les Français. Il y a un Britannique qui, lui, est le Britannique qui est tout droit sorti d'un roman de Dickens, puisqu'il est pickpocket, cambrioleur, joueur de poker et expert aussi en déguisement. Voilà. Et vous avez aussi, dans les Américains, un redneck, donc un qui vient du sud des États-Unis, qui est expert en explosifs, et un noir, parce qu'on est après la fin de la ségrégation légale aux États-Unis, qui lui est expert en transmission, en électronique, et ce sera exactement le même type de personnage qu'on va retrouver dans Mission Impossible, qui est une série contemporaine de celle-ci. Donc c'est Mission Impossible dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la Grande Évasion, et bien sûr, le but est de se moquer du colonel Klink, donc, qui est le chef du camp, interprété par Werner Klemperer, qui a un monocle, qui a des manières vraiment d'officier prussien assez efféminé. Et Papa Schultz, qui est lui personnage rassurant, qui est tout rond et qui est finalement plus un allié de ses prisonniers qu'un ennemi et qui est le personnage le plus populaire de la série grâce au génie comique de John Banner qui est un réfugié juif autrichien qui est arrivé donc aux États-Unis en 1938 sans parler un mot d'anglais et qui avait fait avant cette série carrière à Broadway dans ses rôles d'Allemands très stéréotypés. Et le doublage français rend hommage à cet accent voilà, qui est évidemment très, très travaillé et très faussé pour provoquer le rire.
Oui, lui-même d'origine juive, et c'est le cas du colonel Klink aussi, qui est un personnage absolument extraordinaire. Il est joué par Werner Klemperer, qui lui-même est européen juif et qui a fui le nazisme.
C'est le fils, Werner Klemperer, c'est le fils d'Otto Klemperer et d'une cantatrice juive, juifs tous les deux, qui ont quitté l'Allemagne donc au tout début des années 30 et qui se sont réfugiés à Hollywood. Tout ce qui est intéressant dans cette série, c'est que tous les Allemands sont joués par des juifs américains, mais pour la plupart donc réfugiés et qui ont connu le nazisme. Et puis surtout, le colonel Lebeau est interprété par Robert Clary. Robert Clary, qui est un Français, enfin qui est né en France et dont les parents et lui-même ont perdu la nationalité avec les lois à Pétain, qui a été interné pendant 3 ans à Buchenwald. Il avait à l'époque entre 13 et 16 ans. Et s'il a survécu, c'est parce qu'il savait chanter et danser et qu'il a distrait ces geôliers nazis pendant 3 ans. Ce passé-là, il ne l'a pas dit au moment de la série. Il n'a témoigné de son expérience dans les camps qu'après la diffusion d'Holocauste. On y reviendra. Mais évidemment, quand on sait ça, le rire et les épisodes prennent un tour beaucoup plus poignant. Puisqu'il y a des moments où on entend Robert Clary chanter en français face à des geôliers fictifs et on ne peut qu'imaginer tout ce que ça remuait en lui.
Sachant que les Allemands, que ce soit le colonel, que ce soit Papa Schulz, sont des juifs qui ont fui l'Europe et que ce petit Français a connu réellement la déportation. C'est quelque chose de troublant de revoir Papa Schulz parce que c'est une série qui, pas sur le moment, mais peut-être déjà cela pointait, mais aujourd'hui demeure incompréhensible. On se disait, mais on ne peut pas traiter des nazis de cette façon-là et des camps. Là, ce sont des camps de prisonniers, ce ne sont pas des centres de mise à mort.
Oui, c'est la série. Au début, en tout cas, elle a été accusée évidemment de mauvais goût. Il y a eu des articles dans la presse qui l'ont vraiment descendue, d'autant que les premières pubs pour cette série, c'était des pubs à la radio où on disait vous avez aimé la Seconde Guerre mondiale, vous aimerez Papa Schulz. C'était pas très...
C'est maladroit.
Très malin. Hein, ouais. Et évidemment, les acteurs ont été interrogés constamment par la presse sur qu'est-ce que ça fait en tant que juif de jouer un nazi. Et ils ont dû se justifier tout le temps en disant qu'un acteur peut tout jouer. Voilà. Mais l'historien australien John Stratton parle de réécriture thérapeutique de l'histoire et de cette force du rire, parce que c'est vraiment, enfin, le Papa Schulz, ça marche très bien, c'est du rire de cartoon. Et pour Werner Klemperer, justement, il disait, moi, je peux jouer effectivement un officier de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, pardon, c'est un ancien pilote très très mauvais de la Première Guerre mondiale, parce qu'on se moque de lui, parce que c'est le méchant de l'histoire, parce que voilà, on rit des nazis. Et donc, ça, je peux le jouer.
Oui, mais ils ne font pas peur dans cette série-là. Et d'ailleurs, là aussi, mais le contexte est celui d'un camp de prisonniers, des alliés qui ont été arrêtés, des officiers notamment. Donc, pas besoin de parler des Juifs et de la Shoah ici.
Ça n'est jamais mentionné non plus.
Jamais.
Jamais.
Ce n'est pas mentionné dans la série. Et évidemment, les séries télévisées sont le reflet des préoccupations de la société dans les années 1970. Désormais, en écho aux prises de parole et à l'historiographie, la Shoah apparaît en série.
Le crématoire ne remplit manifestement pas sa fonction. Nous vous suggérons un programme d'incinération en plein air pour détruire tous les corps. De grands bûchers de traverse, de chemin de fer arrosés d'essence devraient certainement se révéler bien plus efficaces. Je m'en doutais un peu depuis longtemps.
Où est-ce que tu as trouvé ces photocopies?
Ça n'a pas d'importance, je crois. Tu étais si vindicatif à propos des gens qui mentaient à ton sujet, je savais qu'il se passait quelque chose. Et Kaltenbrunner, qu'est-ce qu'il dit?
Je retourne en Pologne dès demain.
Après tout ce que tu as fait pour le service?
Non, tu sais, plus rien n'a d'importance maintenant. La Pologne, l'Ukraine, tout s'écroule irrémédiablement.
Non, ne dis pas ça. Kaltenbrunner sait que tu tiens des raisonnements de ce genre. Je comprends pourquoi ta carrière piétine. Tu sais, toutes tes dernières lettres et ton comportement prouvent que tu en as assez de ton travail. Tu en as honte même.
C'est possible, en effet, ça m'arrive.
Mais tu n'as pas le droit de capituler. Tu dois faire ce qu'on te dit jusqu'au bout. C'est le seul moyen de convaincre les autres que tu es dans ton bon droit.
Ma douce et tendre Martha, Je me suis bien trompé sur ton compte. Je croyais que tu serais folle de rage. J'ai tout de même supervisé l'assassinat de femmes et d'enfants.
Je t'en prie,
et tout ce qui te met hors de toi, c'est que je ne suis pas fière de mon travail.
Mais il faut être fière. Il faut faire ce qu'on te dit jusqu'au bout.
Un extrait de la mini-série Holocaust. Nous sommes en 1978. Marjolaine Boutet, présentez-nous cette série.
Oui, alors déjà cette série, il faut la remettre dans son contexte. On est donc à la fin des années 70, où le modèle des séries américaines classiques dont on a parlé, type Papa Schultz ou Combat, est fatigué. Et donc les chaînes, les grandes chaînes américaines cherchent à faire des événements pour attirer le public devant la télévision. Et donc, à partir de la fin des années 70, on va faire des mini-séries. Et ça dure vraiment de la fin des années 70 au début des années 80, jusqu'au moment où les séries traditionnelles vont se réinventer. Mais donc, à ce moment-là, il faut faire des événements, il faut proposer au public du prestige. Donc, il y a beaucoup d'adaptations littéraires et il y a aussi de l'historique. Et en 1976, la série la plus regardée de l'histoire de la télévision américaine, c'est Roots, une série sur l'esclavage. Et qui est la première fois, en fait, qu'on raconte l'histoire de l'esclavage, du rapt sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à, ça s'arrête à la fin de la guerre de sécession et la proclamation de l'émancipation par le président Lincoln. Et donc ça fait un tabac. Et donc, la chaîne concurrente se dit, il faut qu'on fasse pareil, mieux, voilà. Et là, il y a un écrivain qui n'est pas tout à fait scénariste, mais qui s'intéresse au sujet, qui s'appelle Gerald Green, auquel le producteur Herbert Brodkin, qui est un grand producteur de séries de prestige à la télévision depuis les années 50, il lui commande une série sur la Shoah. Et avec des codes qui sont les codes de la saga familiale, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une famille juive allemande, en l'occurrence, auquel il va arriver toutes les étapes chronologiques la Shoah. La série commence en 1935 avec le mariage du fils aîné, Karl, qui est artiste, qui fait du dessin, à Inga, qui est une catholique et qui est interprétée par Meryl Streep, qui est au tout début de sa carrière. Et ce mariage, on voit déjà, et la série insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une famille juive intégrée, parfaitement intégrée, puisqu'il le fils épouse une catholique, le papa est médecin, un médecin en plus très paternant avec ses patients. La maman est d'origine bourgeoise, le père de la maman donc est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Enfin, tout ça est insisté. On les présente vraiment comme une famille très intégrée, très aimante, très accueillante. Et déjà en 1935, sont invités à ce mariage certaines de leurs connaissances qui ont rejoint le parti nazi par opportunisme au départ, parce que donc celui qui va devenir le méchant de l'histoire, Eric Dorff,
vous pouvez l'entendre dans l'extrait, oui.
Dans l'extrait discuté avec sa femme Martha. Eric Dorff est un avocat qui trouve pas de boulot, qui a du mal à nourrir sa famille et qui, poussé par sa femme, et Pierre Vidal-Naquet à l'époque avait remarqué, c'est le seul, la misogynie de la série. Donc poussé par sa femme, il rejoint le parti nazi et il va gravir les échelons et il va finalement murmurer à l'oreille de Kaltenbrunner, de Eichmann. Il va évidemment être à Auschwitz au moment du test du Zyklon B dans la chambre à gaz. C'est l'extrait qu'on a entendu. Bref, il est là absolument partout et il incarne la méchanceté à l'état pur. On ne voit pas Hitler du tout dans cette série. Voilà, donc c'est une narration qui correspond, encore une fois, à un genre, à une commande. C'est pas du tout une œuvre d'artiste ou d'auteur, mais c'est la série qu'il fallait diffuser à la fin des années 70, parce que vous l'avez très bien dit, à la fin des années 70, pour des questions de génération, pour des questions de géopolitique, pour des questions de mémoire, la Shoah est devenue un sujet dont les gens ont envie d'entendre parler. Parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que les survivants n'avaient pas parlé avant, ils ont tout le temps parlé, mais là, vraiment, à la fin des années 70, les gens ont envie de les entendre. Enfin, le temps a passé. Et cette série, c'est vraiment un événement médiatique et une émotion qui a été partagée quand même par 500 millions de téléspectateurs en un an, puisque ça a été diffusé entre le printemps 78 aux États-Unis et le printemps 79 en France, diffusé dans plus de 30 pays. Ça a été diffusé en Indonésie, ça a été diffusé évidemment dans toute l'Europe, et ça a été vu sur les 4 pays sur lesquels j'ai travaillé par la moitié de la population américaine, la moitié de la population ouest-allemande, la moitié de la population française et par 15 millions de Britanniques. Encore une fois, forcément en direct, parce qu'il n'y avait pas de magnétoscope. Et cet événement, relayé par force de presse, il y a des émissions de radio qui reviennent sur la série, on fait des conférences, on en parle dans les écoles. Et donc, évidemment, qu'il se passe des choses au niveau mémoriel à partir de cette série qui, en elle-même et sur le plan historique, est extrêmement mauvaise.
Ah oui, oui. Voilà. Et elle est reçue ainsi d'ailleurs par les spécialistes et par oui. ceux qui sont concernés.
Oui, parce que là encore, et c'est pour ça que c'est un événement, ça commence par un très bad buzz. Puisque le jour de la diffusion du premier épisode, qui est le dimanche de Pâques 1978, Elie Wiesel, donc grand professeur à Boston University, rescapé de Buchenwald et Auschwitz, publie dans le New York Times, donc l'édition du dimanche du New York Times, c'est celle que tout le monde lit, une tribune où il la descend en flammes et où il la qualifie d'insulte à tous ceux qui sont morts et à tous ceux qui ont survécu. Il parle d'un programme mensonger, offensant et bon marché, et ça continue, voilà. Et puis après, Gerald Green, dans le dimanche suivant, va lui répondre en prêchant la licence artistique. Il dit qu'il a voulu faire guerre et paix, voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Wiesel répond derrière, voilà, et tout le monde, et à partir de là, évidemment, tout le monde a envie de la voir, tout le monde a envie d'avoir une opinion. D'ailleurs, deux jours après la diffusion de l'épisode, il y a une autre survivante des camps, Rose Minsky, qui écrit au New York Times en disant que elle a trouvé la série très proche de la vérité. Donc, tous les survivants ne sont pas d'accord. Après la diffusion en France, il y a un grand débat qui est organisé dans le cadre des dossiers de l'écran. Donc en mars 1979, auquel participent notamment Simone Veil et Marie-Claude Vaillant-Couturier. Et Simone Veil, à ce moment-là, elle est ministre de la Santé en exercice. Elle est candidate aux premières élections européennes au suffrage universel pour juin 1979, tête de liste du gouvernement. Et donc c'est une archive remarquable à voir, parce qu'on voit bien qu'elle intervient à la fois en tant, bien sûr, que survivante d'Auschwitz, mais aussi ministre, candidate. Donc, elle essaye de dire que, bien sûr, cette série est enjolivée, que voilà, c'est à l'eau de rose, c'est hollywoodien. Mais en même temps, elle essaye de dire que tous les Allemands n'étaient pas méchants, parce qu'il faut absolument... vraiment, tout le monde a peur du sentiment anti-allemand, que les Français ne participent pas à ces élections européennes. Enfin, y a un enjeu très fort là-dessus. Et on invite évidemment des jeunes sur le plateau, auxquels on a fait visiter Auschwitz, avec toujours cette idée de les édifier. Donc il y a un documentaire où on les suit. Mais ce sont des jeunes des années 70 qui sont extrêmement rebelles. Et parmi eux, il y a Frédéric Taddeï, qui a 18 ans à l'époque, et qui va vraiment attaquer Simone Veil sur le passé collaborationniste du patron du Figaro. Enfin, c'est vraiment... là encore, la réception de la série est une archive elle-même et la façon dont la série est reçue dans tous ces pays, ça dit des choses de l'état de la mémoire, de l'état de la politique. Évidemment, en Allemagne, c'est extrêmement important parce que c'est le moment où au Bundestag, on va voter ou pas le fait de repousser la prescription des crimes de guerre. Et notamment de ceux donc commis par les nazis, c'est prévu pour 79 aussi. En revanche, en Grande-Bretagne, et c'est aussi extrêmement intéressant de voir la réception en Grande-Bretagne, pour eux, pour les Britanniques, c'est un navet hollywoodien, c'est pas du tout leur code, et ils le ressentent d'autant plus violemment que eux, ils la voient pas doublée, ils la voient en anglais, mais les nazis sont joués par des acteurs britanniques. Et les juifs sont joués par des acteurs américains. Et donc, eux, ce qui les choque, c'est de voir des juifs aux dents blanches et à l'accent américain, et de voir les acteurs qu'ils connaissent dans d'autres rôles shakespeariens, etc., interpréter des nazis. Donc, voilà, c'est vraiment tout à fait passionnant de se pencher sur ce cas qui, fort heureusement, a fait l'objet d'un très grand nombre d'archives de presse.
Ah oui, parce que là, on saisit bien la portée de l'étude de ces séries télévisées. C'est par la réception aussi. Marjolaine Boutet, d'ailleurs, faut rappeler, parlons plus jeune un peu, vous vous souvenez, en ce temps-là, quand fallait voir une série, fallait attendre une semaine et tout le monde la regardait en même temps, en direct, donc le lendemain, tout le monde en parlait à la cour de récré ou à la machine à café. Il y avait quelque chose par la consommation même de la série qui n'est pas aujourd'hui la même chose. Nous regardons des séries en continu sur un ordinateur. C'est pas tout pareil.
Et à un temps qui n'est plus un temps collectif. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette perspective donc historique sur les séries de l'ancien temps, c'est pas tellement qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient exactes. Voilà, encore une fois, Holocaust, c'est vraiment plein d'erreurs historiques majeures. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'effet que ça a produit. Et puis parce que c'était le sujet du génocide des Juifs d'Europe, il y a eu des études de réception qui ont été faites à l'époque. Il y a eu des dossiers de presse conservés à Sciences Po que j'ai pu consulter. Parce que c'était cette série-là. Et c'est vrai qu'en tant qu'historienne, on me disait toujours « Oui, mais quand même, tu fais beaucoup d'analyses de contenu et peu d'études de réception. » Et je disais « Oui, mais je ne suis pas sociologue. La réception, ils sont tous morts. » Voilà. Là, pour Holocaust et ensuite pour Dallas, sur laquelle j'ai travaillé aussi, ça a été des séries qui ont eu un retentissement et dont le retentissement a été documenté et conservé. Et ça, c'est extrêmement précieux pour l'historien parce que pour plein d'autres séries, ça n'a pas été le cas, évidemment.
Avec ici cette série Holocaust, hein, nous sommes dans les années 1970, 1978 précisément. 1978, eh bien, cette année-là, les gens qui voulaient regarder des séries télévisées en avaient une autre à disposition.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des marines, Greg Papy Boyington, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées.
Les têtes brûlées avec Papy Boyington, hein, cette série qui a marqué une voire plusieurs générations grâce aux rediffusions. Marjolaine Boutet, où nous trouvons-nous avec les têtes brûlées ?
Alors on se trouve dans le Pacifique au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant là aussi, moi ce qui m'intéresse vraiment en travaillant sur les séries, c'est les séries qui ont marché comme Holocaust et les séries qui n'ont pas marché comme les têtes brûlées. Parce que les têtes brûlées, effectivement, c'est culte en France. Mais ça a été un four incroyable aux États-Unis parce que donc ça a été diffusé aux États-Unis entre 1976 et 1978. Il n'y a eu que 36 épisodes, donc c'est une saison et demie, c'est très très peu pour une série américaine parce que on est juste après la guerre du Vietnam. Et que l'idée des producteurs de la série, c'était de rappeler que, quand même, les Américains, ils avaient fait une bonne guerre dans le Pacifique avant. Et donc, vraiment, voilà, les têtes brûlées, c'est, là encore, c'est cliché récurrent des films de guerre. C'est une équipe de bras cassés, ils sont rebelles, voilà. Et malgré tout, ils sont en conflit avec leur hiérarchie. C'est un peu l'arme fatale, mais à la guerre. Et donc, évidemment, ils sont extrêmement sympathiques et ils sont aussi extrêmement talentueux. Puis, ça fait référence à cet imaginaire du chevalier des airs, qui est le pilote de chasse et qu'on va retrouver dans les années 80 avec Top Gun, par exemple. Voilà. Mais en 1976, on n'est pas du tout encore dans cette atmosphère-là aux États-Unis. Ça va arriver avec les années 80. Mais donc, c'est une série qui est trop tôt. Pour l'opinion, pour le public de l'époque. Donc, ça s'arrête très vite, mais ça ne l'empêche pas d'être vendu à l'étranger, et notamment en France, où, là, pour le coup, en France, à la fin des années 70, de voir des pilotes de chasse, le Pacifique, etc., c'est super exotique, et c'est la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas la Seconde Guerre mondiale vu de France, où on va parler de l'occupation, de la collaboration, du génocide des Juifs d'Europe, etc. etc. Donc, pour les jeunes français, parce que c'est vraiment à ce public-là que ça s'adresse, et ben c'est super. Et c'est rediffusé dans, par exemple, dans la Une est à vous, le samedi, où on pouvait appeler pour demander sa série préférée, et les têtes brûlées arrivent régulièrement en tête des audiences. Et ces années 70, c'est aussi le moment où le public français, et en tout cas les plus jeunes, vraiment grandissent avec des séries. Ça devient important, c'est diffusé, c'est rediffusé. Et ça dit aussi des choses de l'évolution de la population française et des générations.
Oui, parce que le soldat états-unien en guerre, ça, nous le connaissons bien à travers les films. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a tout ce qu'il faut. Mais avec le soldat en guerre en série, et je pense à la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que les têtes brûlées, c'est la fin des années 1970, 1976, 78, ouais. Puis rediffusion. Et après, dans les années 1980, j'ai l'impression qu'il y a toute une série, là justement, où on voit des combats, le souffle de la guerre, des choses comme ça, les orages de la guerre, enfin, le GI au combat.
Oui, alors dans les années 80, c'est donc Reagan qui est élu président en 1980 sur ce slogan que nous connaissons bien, qui est « Make America Great Again » déjà, qui dit en 1980 que la guerre du Vietnam a été une noble cause. Et donc il veut redonner sa confiance à l'Amérique, et donc dans les années 80 se joue au cinéma, dans la politique, en littérature, se joue un travail de mémoire aux États-Unis destiné à réécrire la guerre du Vietnam comme une victoire américaine. Parce que le choc, les Américains ne peuvent pas concevoir qu'ils perdent une guerre. Et donc, le fait de n'avoir pas réussi à à conquérir ou à faire entendre aux Vietnamiens que vraiment la démocratie, la liberté, le capitalisme, c'est formidable, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à intégrer à leur histoire américaine, qui est une histoire héroïque, c'est la ville sur la colline, c'est une société qui doit être plus parfaite que l'Europe, plus parfaite que toutes les autres. Et donc il y a vraiment, c'était l'objet de ma thèse que j'ai fait sur les manuels scolaires américains, il y a vraiment un enjeu de construction nationale, de comment est-ce qu'on réintègre la guerre du Vietnam au récit héroïque de l'histoire nationale. Et donc, dans les années 80, on y arrive notamment avec les Rambo, Platoon et beaucoup de films, mais aussi avec les séries qui montrent des anciens combattants du Vietnam très sympathiques, qui ont notamment acquis par leur expérience au front des bonnes valeurs, le travail, la famille, la patrie. Il y a vraiment ce retournement face à des hippies et des pacifistes qui sont vus comme des ingrats, des enfants gâtés, des gens qui ont réussi à pervertir l'Amérique.
Marjolaine Boutet, bien sûr, en évoquant ces valeurs, il n'y a pas d'allusion directe en condamnant ici une approche qui pourrait être pétainiste, fascisante.
Je sais pas du tout.
Non, non, mais vous pensez qu'il y a une volonté ici idéologique affirmée, extrêmement conservatrice, voire réactionnaire, et même complètement réactionnaire, à travers certaines de ces séries.
Mais les séries, celles qui marchent, sont celles qui sont en phase avec l'air du temps. Et quand on regarde les films des années 80 et les séries aussi, il y a quand même cette atmosphère de cette Amérique néoconservatrice des années 80. Encore une fois, Reagan, il est élu au suffrage universel. Et il y a cette volonté de revenir, après la révolution culturelle des années 60 et 70, à des valeurs plus traditionnelles, plus conservatrices.
En restant une démocratie.
En restant une démocratie, bien sûr. Mais encore une fois, moi, je parle de valeurs. Je ne vous dis pas que Reagan est fasciste.
Voilà,
pas du
ça.
Tout.
En tout cas, ce qu'on aime avec ces séries, et notamment ces anciens combattants qui apparaissent, notamment ceux du Vietnam, par exemple, ce qui est important, c'est quand un plan se déroule sans accroc.
In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque.
L'agence Tourisque, cette série qui naît en 1983 et qui couvre les années 1980. Le principe, c'est quoi, Marjolaine Boutet, des anciens combattants du Vietnam?
Oui, et ben c'est justement, ça illustre parfaitement ce que je vous disais sur les valeurs néoconservatrices, et on l'entend dans le générique, c'est-à-dire que donc ce sont des anciens combattants qui ont été marqués par la guerre. Il y a le personnage le plus populaire de la série qui est joué par Mr. T, donc qui est un ancien combattant afro-américain de la guerre du Vietnam et qui est terrifié à l'idée de voler et de monter en hélicoptère parce que, donc, traumatisme de la guerre. Il y a le looping aussi qui est très sympathique, qu'on va chercher en hôpital psychiatrique au début de chaque épisode et qu'on ramène ensuite. Donc, ils sont traumatisés, ce sont des bras cassés, etc. Mais malgré tout, ils ont des liens d'amitié et ils ont des compétences qu'ils vont mettre au service de la veuve et de l'orphelin dans une société américaine qui est présentée comme corrompu, et avec cette idée, et c'est en ça que c'est néo-conservateur, que l'État, la hiérarchie, les institutions ne fonctionnent pas, et que si on laisse les individus se prendre en main grâce à leur sens moral, eh bien, la justice va triompher. Donc c'est extrêmement divertissant, c'est tout à fait léger, bien entendu, mais il y a quand même un sous-texte idéologique qui transmet des valeurs, des idées, une vision de la société.
Et puis, dès qu'il est question de la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression que le schéma que vous nous avez décrit, Marjolaine Boutet, des Allemands gentils ou méchants, est un schéma qui se reproduit à travers les séries.
Oui, bien sûr. Là encore, dans mon travail d'habilitation, j'ai montré que ce cliché de ce qu'on appelle la romélisation de la Wehrmacht. C'est-à-dire cette idée que les officiers de la Wehrmacht, finalement, ils n'étaient pas nazis, c'était juste des patriotes loyaux qui ont essayé de défendre leur pays du mieux qu'on pouvait, et qu'il y a quelques brebis galeuses qui étaient des agents de la Gestapo fanatiques, mais que la plupart des quand même Allemands, ils étaient bien élevés. Il y a une série sur laquelle j'ai travaillé qui est un feuilleton donc de l'ORTF de 1972 qui s'appelle le 16 à Kerbrillant, dont je vous recommande de le regarder sur Madeleine, donc les archives de l'INA, qui là aussi a ce personnage d'un capitaine, donc capitaine Madeleine, qui est évidemment parfaitement francophone, d'origine française, protestante française, mélomane, mais qui n'aime pas Wagner, qui est amoureux de la liberté, et il y a des dialogues absolument incroyables, où on le voit quasiment souhaiter la destruction de l'Allemagne pour envisager déjà la construction européenne. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, je suis désolée, je spoil, mais il est devenu journaliste il vend la France comme destination touristique auprès des Allemands. Donc, il y a vraiment cette volonté de réconciliation, parce que la réécriture de l'histoire, ça peut servir aussi à faire la paix. Et vraiment, dans ce cas-là, à consolider la construction européenne, et de même que la réécriture de la guerre du Vietnam, ça a permis, dans les années 80, de consolider la nation américaine et de lui permettre, en tout cas, enfin, c'est le récit néoconservateur, d'obtenir la victoire contre l'URSS à la fin de la décennie.
Avec, dans toutes ces histoires, ces regards différents sur la guerre, vous nous avez cité le 16 à Kerbrian, donc c'est accessible, vous l'avez dit, les archives de l'INA, dans ce qui demeure aussi comme une série que vous avez d'ailleurs pu étudier, hein, Marjolaine Boutet, une série de références sur la Seconde Guerre mondiale. Nous avons un village français.
Représenter le réel, c'est jamais comme le réel.
Hein ?
Représenter le réel, c'est pas le réel. Tenez, tout à l'heure avec Fernand, vous vous êtes engueulé à propos de la purée de châtaigne, vous vous souvenez ?
Bah ouais.
Eh ben, tu raconterais ça comment, toi ?
Ben, avec Fernand, on s'est engueulé par rapport à la purée de châtaigne.
Et il était quelle heure ? Vous étiez où ? Habillé comment ? Quel était le ton de votre voix ? Quelle relation vous avez avec Fernand ? Quelle est la composition de la purée de châtaigne ? Quel est le rôle des châtaignes dans le maquis ? Etc, etc. Et sur tout ça, vous ne serez jamais d'accord dans le détail. Les choses arrivent. Ça, c'est le réel. Et puis, c'est fini. Ceux qui l'ont vécu n'ont pas vécu la même chose. Ne le racontent pas pareil. Les traces de ce qui s'est passé existent, mais elles sont toujours partielles ou abîmées. Impossible de retranscrire l'intégralité du réel à quelqu'un qui ne l'a pas vécu.
C'est désespérant.
Mais non ! Face à cette impossibilité, les mauvais font du journalisme, les bons de l'histoire et les génies du théâtre. On prend le réel et on en fait quelque chose. Une histoire ! Et on laisse le réel dans son obscure médiocrité. Allez, on recommence. Et de l'entrain !
Et c'est drôlement bien écrit quand même, un village français, ouais. Cette série-là, qui date de 2009, hein, pour les premiers épisodes.
Oui, et ça, ces épisodes-là, c'est 2016. Donc c'est la fin de la saison. C'est un extrait que j'ai donné plusieurs fois en examen à mes étudiants d'histoire, parce que je trouve que c'est une très belle leçon sur la façon dont on fait l'histoire et le rapport entre l'histoire, le réel et la fiction. Je rassure pour la petite pique vis-à-vis des journalistes, c'est parce que Frédéric Krivine, le scénariste, a fait des études de journalisme, et qu'il y a une gradation, et que ce personnage, donc interprété magistralement par Alexandre Hamidi, c'est Claude, un maquisard qui est aussi un passionné de théâtre, et qui aide donc ces jeunes maquisards à jouer quelque chose qui ressemble très fortement au Cid. Et vraiment, tout le parti pris de la saison 5 d'Un village français, c'est la façon dont interpréter, jouer la guerre permet de se préparer à la résistance, et que finalement la résistance, ça commence par le symbolique, puisque le clou de cette saison 5, c'est une reconstitution du défilé des maquis de lin à Oyonnax le 11 novembre
1943.
Ouais. Merci. et donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses dans cet extrait-là, dans cette série, puisque là on est dans un souvenir puisque la saison 7 est consacrée vraiment à la question de la mémoire, du travail de mémoire. Enfin, voilà, c'est ma série préférée.
Ce village français, c'est une série qui a vraiment marqué parce que c'est une histoire qui se déroule sur plusieurs années, au sens où la série qui naît en 2009 a couvert plusieurs années. Et là, dans les séries où nous avons un épisode qui se suffit en lui-même et les séries qui se suivent, ici, nous sommes sur une narration. C'est difficile aussi pour les scénaristes de créer cette narration sur le temps long parce que ça donne une limite finale.
C'était le parti pris de la série. Donc, il y a quand même 72 épisodes. Et c'était la volonté du producteur Emmanuel Dossé de vraiment rendre l'occupation dans sa longueur. C'est-à-dire que quand on regarde les 72 épisodes, on comprend très bien que la situation en 1940 n'est pas la même que la situation en 1944. Parce qu'on voit des personnages évoluer. Alors, c'est une série qui se passe dans un village totalement fictif, enfin une ville qui s'appelle Villeneuve, dans un Jura voilà, qui est là non plus pas réaliste au sens géographique du terme. Aucun personnage n'a existé et pourtant ils incarnent tous des réalités sociales, des réalités politiques, des trajectoires la collaboration à la résistance et ces zones grises de l'occupation, puisque le conseiller historique de la série c'était Jean-Pierre Azéma et qui a vraiment participé avec Frédéric Krivine à l'écriture de sa genèse. Enfin, vraiment, chaque saison commençait par un déjeuner, parfois plusieurs, entre Frédéric Krivine et Jean-Pierre Azéma à l'hôtel Lutetia, pour être vraiment dans le cœur de la mémoire et des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Et Frédéric Krivine lui-même s'est énormément documenté, il a énormément lu. Et je trouve que c'est une série qui est pleine de petites Madeleine de Proust pour les historiens. Et c'est disponible gratuitement sur TF1 avec des pubs.
Avec ici une série française sur le temps de la Seconde Guerre mondiale, puisque nous parlons des séries états-uniennes, y a-t-il des spécificités ? En fait, ce sont des approches différentes et un peu nationales là aussi.
Oui, alors j'ai discuté. La série a été diffusée aux États-Unis et j'ai discuté justement avec des Américains qui avaient vu cette série et qui trouvaient ça génial parce que c'était la Seconde Guerre mondiale sans les fusils. Ils trouvaient ça tellement français. Voilà, et donc ça leur a plu aussi parce que ça change de cette approche très militaire. On n'a pas parlé de Frères d'armes et de The Pacific, qui sont les séries produites donc dans les années 2000 après Il faut se lever à un soldat Ryan par Steven Spielberg et Tom Hanks, qui sont des séries de guerre marquées aussi par, pour Frères d'armes, la bonne guerre américaine, un côté très héroïque. Et puis The Pacific, qui arrive sur les écrans américains 10 ans plus tard, qui est là marqué par le bourbier dans lequel les États-Unis se sont replongés en Irak et en Afghanistan. Donc là aussi, les séries, elles sont toujours marquées par leur contexte et par les autres guerres qui se sont déroulées. Et pour un village français, c'est marqué aussi par la question des sans-papiers, c'est vraiment marqué par le contexte politique de l'époque.
C'est cette richesse des séries, et je comprends pourquoi vous avez sous-titré votre ouvrage, Marjolaine Boutet avec Pierre Cerisier, « Sans modération, les 1000 séries à voir sans modération », parce que c'est cette richesse-là aussi par l'analyse qui nous fait voir ces moments de divertissement. C'est du divertissement, mais d'une toute autre manière. Faire écran, hein, les réécritures de la Seconde Guerre mondiale en série, ça c'est l'étude approfondie que vous avez réalisée sur ces séries et Un village français, une histoire de l'occupation, une série donc à aller voir. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. La série consacrée aux séries télévisées est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Représenter le réel, c'est pas le réel.
Attention, il s'agit de se remuer à trouver une solution.
On est là pour ça. À quel problème?
Là-bas, il n'était question que de serpents de mer, de pieuvres géantes.
Maintenant, la reine va recevoir l'onction.
On prend le réel et on en fait quelque chose.
C'est le moment le plus fervent.
Une histoire
de toute cette cérémonie.
Et on laisse le réel dans son obscure médiocrité.
Une histoire, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Cassandre Puel, à la technique Marie-Claire Roumabadi, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.